Soin de vous, prenez soin des vôtres. Ensemble, prenons soin des autres. Bonne soirée avec Marceau, avec Joanie, avec tout ce qui s'en vient. On se reparle demain, 7h55, dans le Pit Stop, 14h, avec ces charmantes personnes.
Salut!
Boulevard!
Te tiens informé.
102.1.
Toute la semaine. Partout. La Beauce. Portneuf. Bellechasse. Saint-Og. La Côte-de-Beaupré. Québec.
Et je salue les gens de Lévis. Je n'ai jamais oublié les gens de Lévis.
Ouais. Effectivement. Boulevard 102.1, maintenant 100% talk.
Une propriété Leclerc Communication.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Oh, je ne sais pas si on va avoir une soirée particulière parce que je sens Maître Marc Bellemare, mon collaborateur du lundi soir, un peu nerveux. Je l'entends jouer avec son crayon, là. Et normalement, quand un avocat joue avec son crayon, c'est parce qu'il se pose des questions.
Oui, surtout qu'il ne s'en aperçoit pas, mais merci de me le dire.
Comment allez-vous?
Ça m'est arrivé à un moment donné, je parlais à Dutrissac, à Cube Radio, puis j'avais... J'avais le crayon, puis il me l'avait dit, ils arrêtent de jouer avec ton crayon. C'est beau. C'est vrai qu'on entend tout, hein, finalement. On n'a plus d'intimité, on ne peut plus rien faire, même pas jouer avec un crayon.
Exact. On entend tout ça. Maître Bellemare, quelle belle saison de hockey on a à Montréal. La semaine dernière, j'étais de passage au Centre Bell avec mon plus grand. C'était son cadeau de fête. C'était sur semaine, c'était jeudi. Et quand j'ai. Quand j'ai acheté les Blue Jackets de Columbus, effectivement, et quand j'ai acheté les billets, je me suis dit « Ah, j'aurais peut-être dû prendre un autre cadeau, mais il me semble que celui-là, il est cher en tabarouette. Bon Dieu que c'est plus accessible, les billets du Canadien. Ça l'était il y a de ça quelques temps, mais là, ça ne l'est plus, Maître Bellemare. Ouais, des billets en bas de 200, 300 là, sont de plus en plus rares. »
Moi, j'ai eu des billets de saison de 2004 à 2018, même 2019 au Centre Bell. J'ai arrêté ça quand la pandémie est arrivée, évidemment, ouais. Ça ne marchait plus, cette saison-là. Le club était poche, fait que j'ai arrêté d'y aller, mais j'ai fait déjà, moi, deux, puis des fois, trois voyages à Montréal dans la même semaine pour aller voir des games en auto. Je vais te dire, en affaire, il fallait aimer ça, mais je partais toujours avec un chum de Québec, puis on avait bien du plaisir, mais on rentrait vers minuit et demi le soir, tu sais, c'était acceptable. Mais à l'époque, j'avais des billets dans la loge Air Canada ou la loge Desjardins, là, le premier balcon.
Oui, oui, oui.
Et il y avait des prix qui variaient selon l'équipe. Pittsburgh, Boston, ça coûtait 300 piastres du billet. Puis c'était pas mal les billets de saison les plus chers dans le stade. Avec les séries, là, ça coûtait 24-25 000 par année. Parce qu'aux séries, tu envoyais un autre bill. Si tu voulais avoir des billets de série, il fallait que tu payes plus. Puis que ça n'avait pas d'allure. Mais ce que les gens me disent par les temps qui courent, c'est que ça, c'est de la petite bière par rapport au prix actuel. Ça a l'air qu'aujourd'hui, c'est comme 500-600 $, ça se peut-tu?
Ah, c'est de la petite bière, vous dites. Juste, j'ai des chiffres devant moi, là, gracieuseté du Journal de Montréal, Journal de Québec. Les amateurs qui vont vouloir voir le Canadien en action au Centre Bell, le 5 avril, vont débourser près de 300 $ pour assister au match face aux Devils du New Jersey. Et ça, là, vous êtes dans le pit en haut, Maître Bellemare. Vous êtes quasiment à côté sur le mur du Centre Bell. Puis vous avez le cou cassé tout le long de la game pour regarder.
C'est 400, là. C'est 400, là.
Exact.
Dans les bancs bleus en haut dans le pit, là.
Voilà, pour regarder les petits bonhommes qui sont en bas. Vous êtes très, très loin, mais vous profitez de l'ambiance. Puis souvent, dans ces sections-là, il y a plus d'ambiance qu'en bas. C'est juste qu'on ne voit pas grand-chose, très honnêtement. Là, ce que je vois, là, c'est en début de campagne, ces places-là étaient disponibles pour 90 $.
OK.
Et là, on est autour du 290 $, 300 $.
Là, c'est-tu le prix que la billetterie du Canadien vend ou c'est le prix que
c'est les revendeurs. C'est les revendeurs,
ouais. C'est ça. Parce que moi, j'achetais... Avant d'avoir des billets de saison, j'allais à Montréal. À chaque fois que j'y allais, j'achetais des billets de revendeurs. J'avais trois ou quatre chums. Là, je savais où ils se tenaient, toujours dans le même coin, là, pas loin du couche-tard. Et j'allais chercher mes billets là-bas. Et ça me coûtait un prix qui n'était pas pire, généralement un peu moins cher que le prix réel. Surtout quand tu arrivais comme 5-10 minutes avant le game où là, ils étaient sûrs de rester collés avec leurs billets. Là, puis j'ai eu des billets excellents, la section 101, là, qui est vraiment sur la ligne rouge au Centre Bell, là, les meilleurs billets que tu peux avoir en plein centre, sur le bord de l'escalier. Il n'y a pas un chat qui te dérange. Mais à un moment donné, quand je suis arrivé en politique, je disais ça à mon chef de cabinet, ben, je vais aller m'acheter des billets. Ben, hey, il ne fait pas ça. Il dit, comment on ne fait pas ça? Ben, il dit, non, tu ne peux pas acheter des billets de revendeur. Il dit, ceci, c'est pas légal. Comment ça, c'est pas légal? J'ai jamais su vraiment si c'était légal ou pas d'acheter des billets de revendeur. Ben, moi, je suis pas légal.
Je suis passé juste à l'entrée, là, je dirais, quand vous êtes en face de l'entrée principale, à droite, là, il y avait un homme qui était collé sur le mur. Visiblement, lui, il en vendait. Puis quand il m'a parlé, il m'a dit, j'ai des billets pour le game. Il y a comme eu une petite hésitation, là, mais il ne disait pas fort, mais il y avait des billets pour la game.
Mais moi, je pense que c'est un règlement de la ville de Montréal.
Écoute,
je n'irai pas. Je te donne pas une opinion juridique, là, mais en principe, il n'y a rien qui interdit la revente de billets. Il y a même des sites de revente. Je veux dire. Le gars qui a un billet et qui vend un billet, s'il vend un faux billet, bien là, c'est un faussaire, là, c'est un acte criminel. Mais s'il vend un vrai billet, je vois pas le problème. D'ailleurs, les gars se cachent, mais je suis pas sûr que. Je pense que c'est une zone grise. Là. Je suis pas sûr que c'est formellement interdit par la loi que de vendre des billets du Canadien.
Sur Internet, ça se fait très bien. Moi, j'ai acheté mes billets sur Ticketmaster, puis ça a pris quelques secondes. J'avais mes billets dans mon portefeuille virtuel sur mon téléphone cellulaire, puis ça a très, très bien fonctionné. C'est sûr qu'on paye peut-être un peu plus cher là, sur Ticketmaster, mais au moins, on s'assure que les billets, une fois qu'ils se font scanner, bien, ils fonctionnent, puis on peut rentrer dans le Centre Bell plutôt que de se faire dire hey, « on est désolé, vos billets, c'est pas des bons billets. »
Exact. Mais combien tu as payé sans indiscrétion pour tes deux billets?
Je vous dis, ça a coûté cher.
400 chaque?
Comment?
400? 500 chaque?
Ça a coûté cher. C'est un cadeau de fête de mon gars.
OK. Et puis, tu étais dans quelle section?
On était bas.
OK. Voyais-tu la game un peu ou tu avais toujours une vitre ou un poteau ou un toto qui se penchait en avant de toi et qui t'empêchait de voir à l'autre bout de la glace?
J'étais capable de voir la différence de grandeur entre moi et Jacob Debèche.
OK.
Ah oui, j'étais très bas. C'était la première fois de ma vie que j'ai été aussi bas. Puis j'ai été grandement impressionné par la qualité de jeu, la vitesse de jeu. C'est tout à fait exceptionnel. Roule,
hein? Et c'est vrai, quand tu es près de la glace, tu vois les joueurs, le gabarit puis la vitesse. Écoute, les gars, ils ont quoi? Des fois, tu as une seconde pour réfléchir. Là, ouais. Parce que faut que tu réfléchisses. Après ça, il faut que tu exécutes.
Exact.
Il faut que le cerveau parle aux jambes, il faut que le cerveau parle aux bras, il faut que tu identifies ton interlocuteur, à qui tu envoies la POC. Non, mais à TV, ça bouge un peu plus lentement, mais sur place, c'est vraiment impressionnant quand tu vois, quand tu es à 2 mètres du joueur, là, c'est quelque chose.
Ah non, c'est exceptionnel. Juste à titre informatif, Maître Bellemare, là, l'endroit où j'étais, OK? Si vous voulez aller voir soit Jacob Debèche ou encore Jacob Fowler, donc directement derrière le but du Canadien, là où le Canadien est deux fois, sur StubHub actuellement, c'est 2622 $.
Là, t'es bien gris, là.
On est en bas.
Non, les bancs gris là, qui contournent la glace là, immédiatement derrière la vitre.
À côté de la lumière.
Le gars qui fait ça avec ses mains.
À côté de la lumière.
Il pense qu'il a rendu le défenseur de l'autre équipe.
À côté de la lumière. À côté de la lumière rouge de but.
Ouais. Hey, mais ça, c'est le fun dans le sens où on appelle ça les end zones, les zones d'extrémité.
Ouais.
Au football, c'est la même affaire. Quand tu es dans les end zones, tu vois très bien de près ce qui se passe, mais en même temps, c'est un peu gossant si l'action se passe à l'autre bout. Bien là, tu manques un show. Mais si ça se passe dans ton espace à toi, si tu as la chance d'avoir 4-5 buts, finalement, dans ton filet, idéalement des buts du Canadien, bien là, c'est trippant parce que tu vois aussi l'exécution, tu vois le gardien bouger, puis les mises en échec, puis l'échec avant aussi. On voit le travail qui se fait, mais on a une moins bonne perspective de l'ensemble de la glace là, qui fait quoi, 200 pieds par 80, une patinoire là, la Ligue nationale, là, c'est quand même assez grand.
Mais 2622 $ pour un match, c'est cher et payé en call-in, surtout si c'est une mauvaise soirée pour le Canadien. Puis l'an passé, je regardais pendant les séries contre les Capitals de Washington, quoi qu'il y a eu quand même quelques bons matchs là, contre les Capitals, les billets étaient en vente à près de 6000 $ pour le premier tour contre les Capitals. Fait que c'était beaucoup d'argent. Il y en a qui. À Montréal, il y en a qui ont beaucoup d'argent.
Non, mais il n'y a pas de bout, là. Non, il n'y a pas de bout si tu achètes, Si tu achètes des revendeurs, moi, je pense que tu peux avoir un meilleur prix, puis ça se négocie. Tu sais, moi, je me souviens, à un moment donné, avant d'avoir des billets de saison, on est dans les années à peu près 2000, là, j'étais allé avec mon fils et deux de ses amis pour sa fête. On était quatre. J'avais acheté quatre billets, j'avais réussi à avoir quatre billets ensemble. Puis dans ce temps-là, ça se faisait, ça passait. On avait, tu sais, c'est sûr que c'est tout payé en argent, puis tu sais, faut pas niaiser, puis... c'est des bons billets, puis tu peux avoir, à mon avis, si tu négocies ton affaire correctement, là, tu peux avoir de meilleures conditions, des meilleurs sièges. Ça vaut la peine d'aller voir les scalpers une fois de temps en temps.
Ouais. Quelques secondes avant un game, là, je suis entièrement d'accord. Le problème étant que si tu arrives puis tu avais promis quelque chose à ton enfant, puis là, tu n'es pas capable d'avoir des billets, tu es dans le trouble, puis quand même pas pire. Quand est-ce qu'on a eu un gros duo comme Cole Caulfield et Nick Suzuki chez le Canadien, dans l'histoire du Canadien? La dernière fois qu'on a eu un duo qui ressemblait peut-être à ce duo-là, des joueurs différents, mais au niveau des points, là, est-ce que vous avez de la mémoire?
Chute la fleur.
Oui, mais il y avait plus récemment, je vous dirais, dans les années 90, là.
OK. Dans les années 90, Lafleur, 80, 90. Après ça, Danfoss, peut-être?
Danfoss était là. Et qui était l'autre?
Danfoss avec... C'était pas Stéphane Richer, non?
Pierre Turgeon qui avait dominé le Canadien en 1994. 15-96, il avait fait 96 points en 80 matchs, puis Vincent Danfoss le suivait, 94 points en 80 rencontres aussi. Cette année, Caulfield et Suzuki vont possiblement accoter ce que les deux gars ont fait dans les années 90. C'est des joueurs qui sont exceptionnels, puis à ça, je vais ajouter Slavkovski, là, qui est capable de faire à peu près n'importe quoi sur la glace. C'est de toute beauté à les voir évoluer. On est chanceux cette année.
Oui, tout à fait. Puis Caulfield, ben là, il a 5 ans. Écoute, il faudrait qu'il soit vraiment malchanceux pour pas se rendre à 50 buts. Mais je me souviens, Pacioretty, il y a quelques années, ça fait quoi, 8-10 ans, Pacioretty, avant qu'il soit échangé, il avait plafonné à 39 buts une année. Puis tout le monde était assis sur le bout de le siège à attendre le 40e qui n'est jamais venu, tu sais.
Oui.
Alors, des fois, ça peut paraître simple parce qu'il y a un air d'aller. Mais là, je pense qu'il reste 8 games. Là. Ça se peut-tu? 7
ouais.
ou 8 games?
Puis tu sais, je vous dirais que Caulfield va se rendre à 53-54. Je l'observais jeudi passé. J'ai été chanceux, là, mais il était à côté de nous autres. Puis même quand il est dans le warm-up, Maître Bellemare, il est tout sourire. Il n'y a aucun stress. Tandis que les autres gars sont concentrés. Ils regardent à terre. Ils regardent leur rondelle. Ils pensent à leur match. Caulfield s'amuse comme si c'était un bébé dans un jardin d'enfants. Il est vraiment dans son élément, Cole Caulfield. Puis je ne suis pas sûr que la barre du 50 buts, ça le stresse tant que ça.
Oui, puis là, évidemment, il y a des games où les victoires ne sont pas toujours méritées. Là. C'est certain qu'hier... Ben,
c'est le d'hier.
Hier, ça faisait dur en Caroline. Là. Le début de la game, je me suis dit, ils vont perdre solide. Mais finalement, ils ont gagné parce que Gobech a réussi à voler le match. Mais quand un gardien comme ça qui est capable de voler des games... au moment où l'attaque est un petit peu mieux performante, le temps que l'attaque se mette en marche, parce que c'est un peu ça qui est arrivé hier, gagner 3-1, il reste qu'on a un goaler qui est capable de voler des games. Puis moi, je me souviens, le premier match qu'il a goalé, c'était en Floride, et ça fait 2 ou 3 ans, il avait blanchi les Panthers, puis c'est une année de Coupe Stanley pour la Floride. Là. Il avait, je pense, c'était le 29 ou le 30 décembre, c'était son premier match en Ligue nationale, 3-0. J'étais là pour voir le Canadien contre les Panthers. Et j'ai regardé mon fils, puis j'ai dit, on vient de trouver notre goaler. Ouais, c'était Jakub Dobech.
Mais quand il a commencé, il avait un drôle de style. Là. Moi, j'étais un
gars qui... Il a blanchi les Panthers à domicile.
Oui, mais des fois avec les réflexes et tout ça, tu sais, quand je regardais des highlights de Dominique Hašek là, avec mon gars. Oui. Là, et mon gars ne comprenait pas comment Dominique Hašek pouvait être aussi dominant parce qu'il n'y avait aucun style dans sa façon de faire. C'était son style à lui. Il ressemblait à aucun autre gardien dans la Ligue nationale de hockey. On l'appelait le Dominator. Mais c'est un gars que tu le battais par la droite, Ben lui, il se revirait par l'autre bord puis il allait te chercher avec le biscuit ou encore avec la mitaine. Il n'y avait aucune technique, mais il était capable de toutes les arrêter. Bon, je dis toutes, là. Il en a laissé passer quelques-unes, mais c'était tout un gardien de but. Quand Dobesch a commencé, il était un peu tout croche, couvrait mal ses angles. J'étais entièrement d'accord avec vous, il était capable de bien garder les buts. Mais là, là actuellement, c'est le gardien de l'heure dans la Ligue nationale de hockey. Puis c'est probablement en raison du changement de coach des gardiens chez le Canadien de Montréal. Depuis ce temps-là, là, ça va super bien. Puis en plus, ben, il n'accorde plus aucune entrevue aux journalistes, là, l'organisation du Canadien qui semble le protéger. Fait que ça va bien, il est dans sa zone.
Ah oui, depuis qu'ils l'ont pogné à broyer puis qu'ils ont commencé à dire qu'il y avait une petite nature.
Oui, exactement.
Ah oui, regarde, des fois, les médias, il faut faire attention, c'est pas toujours une bonne affaire. Ils font perdre ta concentration. Mais les cas, ils commencent à se regarder dans les réseaux sociaux puis ils commencent à se demander qu'est-ce qu'on dit de lui. Puis ça commence à y jouer dans la tête. Puis tu le sais, les gardiens de but, tout se passe dans la tête. Fait que t'as pas besoin d'avoir quelque chose qui vient te bouleverser au plan émotionnel. Là. Alors, il faut protéger notre goaler, c'est certain. Puis, à mon avis, c'est la meilleure chose que le Canadien pouvait faire.
Maître Bellemare, je vais essayer de le mettre sur votre écran. Je vais vous faire écouter quelque chose. Samedi, c'était le dernier débat entre Christine Fréchette et Bernard Drainville, les deux candidats à la chefferie de la Coalition Avenir Québec. Et je rappelle aux auditeurs, s'ils ne le savent pas encore, que la personne qui va remporter la chefferie de la Coalition Avenir Québec va devenir automatiquement premier ministre ou première ministre. Donc, c'était le second et ultime débat. Et le premier a été très tranquille, bien honnêtement. On sentait que Bernard Drainville se disait « Ouais, peu importe ce qui arrive, je vais être obligé de travailler avec Christine Fréchette. » Plus les jours ont avancé, plus les sondages ont parlé. Dans la circonscription de Bernard Drainville actuellement, s'il y avait des élections demain matin, Bernard Drainville est bon troisième. Très, très loin derrière le Parti québécois et derrière le parti d'Éric Éric Duhaime, le Parti conservateur du Québec. Donc, il a joué le tout pour le tout samedi. La finale, Maître Bellemare, là, on s'entendait pas sur ce que Christine Fréchette aurait dit sur le chemin Roxane. Je vous laisse écouter ça. C'était pas beau à entendre, puis je suis pas sûr que ces gens-là vont bien s'entendre une fois que Christine Fréchette sera élue première ministre du Québec.
Mais je veux revenir, vous comprenez que j'ai un questionnement sur la position de Christine par rapport à l'immigration. Puis je vais vous dire, Christine, la raison pour laquelle j'ai ce doute, c'est que...
Mais tu me prêtes des intentions, Bernard.
Non, Christine, je te donne un autre exemple. La semaine passée, au débat, tu as dit, moi, j'ai fait fermer Roxane. Dans les faits, Roxane, tu souhaitais qu'il reste ouvert. J'ai les citations ici. Ben oui, j'ai les citations.
Elle a vraiment
ça n'aurait
les
absolument rien de proposer de fermer le chemin Roxane.
J'ai fait la une du Journal de Montréal parce qu'Alain Laforêt m'a demandé « Qu'est-ce que vous pensez du chemin Roxane? » Ma réponse, basta. Basta, ça va
Mais
faire.
Mais avant, on basta.
Il y en avait 65 000 qui rentraient. Quand même.
Silence, s'il vous plaît.
Il y en a une qui s'est battue ici et qui a obtenu des résultats avec le fédéral, c'est moi. J'ai fait fermer le chemin Roxham parce que j'ai travaillé avec eux autres en étroite collaboration pour faire en sorte que les États-Unis acceptent de signer une entente qui viendrait faire fermer le chemin Roxham. J'ai fait en sorte de faire imposer des visas sur les Mexicains.
Madame,
monsieur, Jobin, c'est quand même...
Je vraiment votre silence quand on entend les candidats.
Tu as dit, ça ne règle absolument rien de proposer de fermer le chemin Roxham. Ce serait dangereux pour les migrants.
Ça, c'était en réponse
Et par la suite, tu es sorti le même jour pour changer d'idée.
Une semaine avant, j'ai fait la une du Journal de Montréal.
Oui.
Une semaine avant, vérifie tes sources.
Mais tu as changé d'idée, tu as dit, il ne faut pas le fermer, c'est dangereux. Ouais. Et quelques heures plus tard, tu es revenu. Ben oui.
Cette phrase-là, là,
tu es revenu.
Elle est venue parce
Christine
que je
Fréchette
une...
s'est à nouveau présentée devant les journalistes au sortir de la période pour rectifier sa position. Wow.
Je vais remettre les choses en contexte, là, parce que ça a l'air qu'il faut le faire encore. Je répondais à une proposition farfelue puis ridicule du Parti québécois qui proposait de barricader Roxham. Et au lieu de dire barricader, j'ai dit fermer l'accès à chemin Roxham. Mais ça aurait dû dire barricader. C'était ridicule, leur proposition. Ils pensaient faire fermer le chemin Roxham en envoyant la SQ en distribuant des tracts disant il n'y a plus de place au Québec. Voyons donc voir si c'est comme ça qu'on règle des enjeux gouvernementaux. C'est incroyable.
Alors... ce débat est terminé.
Donc, on a terminé le deuxième et ultime débat sur cette note-là, Maître Bellemare.
Oui, bien, toi et moi, là, Je mets Roxane, là, c'est un peu passé date, non?
Oui, puis c'est surtout...
Le sujet n'est pas intéressant.
C'est surtout quoi,
êtes-vous... Moi, je pense qu'on aurait pu leur demander, avez-vous des seuils minimaux en immigration? C'est quoi votre quota? C'est quoi votre critère? Qu'est-ce que vous allez faire pour négocier avec Ottawa sur la question de l'immigration? Parce que c'est foutument le bordel, là. Tous les gouvernements se cassent la gueule avec Ottawa dans ce dossier-là. Comment vous allez gérer l'immigration au Québec? En tout cas, moi, le chemin Roxham, c'est pour...
Pour être très honnête avec vous, il y a d'autres sujets qui ont été abordés, là, mais moi, les infrastructures actuelles, que ce soit en santé ou en éducation, tout ce qui nous entoure est en train de s'écrouler. Il y a des déficits d'entretien qui sont ignobles pour une société dans laquelle on injecte énormément d'argent en tant que contribuable. Mais cette question-là était plus de juridiction fédérale. C'est juste que Christine Fréchette dit que c'est elle qui a fait fermer le chemin Roxham, alors qu'elle n'a aucun impact sur le chemin Roxham. C'est de juridiction fédérale. Cela dit, c'est le ton, moi, qui m'a grandement impressionné, plus vers la fin, où là, on se rend compte qu'il y a une fracture entre les deux. Et je ne suis pas sûr que Christine Fréchette accepte un Bernard Drinville pendant plus que quelques semaines à ses côtés.
Oui, c'est ça. Mais c'est difficile à dire. Moi, j'ai l'impression que Drinville, en tout cas, je ne pense pas qu'il va se présenter à la prochaine élection. De toute façon, Bernard Drinville, tu sais qu'il a été élu sur une fausse représentation parce que c'était le troisième lien qui l'a fait élire.
Exact.
Alors, Martine Biron, c'est la même affaire. Les deux comtés de la Rive-Sud, Lévis et Chute-de-la-Chaudière, ont été acquis par la CAQ sur la base strictement là, du troisième lien. Là. Moi, je connais beaucoup de gens sur la Rive-Sud qui ont voté CAQ en 2022 pour le troisième lien. Et après l'élection, quelques mois plus tard, Legault a décidé d'abandonner le troisième lien. Il est revenu sur sa parole quand il a perdu la... solide, là, la partielle dans Jean Talon par 10 000 voix. Mais quelques mois après l'élection, ils ont abandonné, au printemps 2023, ils disaient qu'ils abandonnaient l'idée du troisième lien. Donc, Bernard Drinville a été élu sur une fausse promesse électorale. Et c'est rare qu'on voit ça. Souvent, c'est l'ensemble des promesses électorales. On n'est pas capable vraiment de distinguer telle ou telle promesse par rapport à tel ou tel comté, mais dans ce cas-ci, le troisième lien à Québec était vraiment au cœur de la campagne de Bernard Drinville et de Martine Biron. Alors, je ne serais pas étonné que ces deux-là ne se représentent pas à la prochaine élection, peu importe le parti, surtout pour la CAQ. Mais ce n'est pas facile de faire un débat contre une femme, je le sais. Moi, j'ai été candidat à mairie contre Mme Boucher pendant une certaine époque. Et c'est toujours délicat. Le gars, il faut qu'il fasse attention. Il ne faut pas qu'il soit trop mou, il ne faut pas qu'il soit trop dur, il ne faut pas qu'il soit trop vindicatif parce que les femmes qui écoutent le débat n'aiment pas ça, il est agressif, il a tombé sa tomate, il n'avait pas le bon ton. C'est très, très délicat. Un gars qui débat avec un gars, c'est plus facile. Un gars qui débat avec une femme, c'est plus difficile. Et dans ce cas-ci, souvent, l'échange, Drinville monte le ton, il picosse, puis je pense que c'est pas bon pour lui. Qu'est-ce que je te dis? Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas raison, là. Mais je pense que c'est pas bon pour lui, puis je pense que surtout les femmes qui écoutent le débat, qui s'identifient beaucoup à Mme Fréchette, vont plutôt avoir une ouverture par rapport à la candidature de Christine plutôt que Bernard. À mon avis. Ce genre d'échange-là, c'est le gars qui n'est jamais au change au niveau de l'électorat.
Non, je suis entièrement d'accord. Parlant de discussion entre un homme et une femme, il y a une vidéo qui a circulé énormément sur les réseaux sociaux en fin de semaine, Maître Bellemare. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais c'est une discussion atroce entre un automobiliste qui se fait intercepter par une policière de la ville de Montréal et qui commence les discussions avec elle en l'invectivant. Je vois que le service de police de la ville de Montréal a réagi à cette vidéo-là que je vais vous faire entendre, soit dit en passant. On a confirmé que la vidéo est authentique et on condamne fermement les propos misogynes et dégradants qui ont été prononcés par l'automobiliste à la policière. Selon l'inspecteur-chef David Shane, on dit que personne ne devrait avoir à subir de telles injures dans son travail. Le SPVM précise avoir saisi son module des incidents et crimes haineux afin qu'un suivi soit approprié et qu'il soit effectué auprès de l'automobiliste. Nous analysons actuellement la situation et nous serons en contact avec la Ville de Montréal afin d'évaluer la la suite pour un truc approprié pour l'avenir. Bon, j'ai pas trop compris ce que ça voulait dire. Nous tenons à saluer la retenue de la policière et son professionnalisme. Patati et patata. C'est important de vous dire que la vidéo que vous allez entendre, Maître Bellemare, ça ne s'est pas fait dans les derniers jours parce que la policière est en uniforme d'été ou de printemps ou peut-être du début de l'automne, mais il n'y a plus de neige. À Montréal, la semaine dernière, il restait encore de la neige, faisait encore très froid. Les policières ne s'habillent pas comme ça lorsqu'elles interceptent des automobilistes par ces températures-là. Donc, ça a l'air d'être une chaude soirée d'été et la policière intercepte l'individu parce qu'il a des vitres teintées. Je me tais, je vous laisse entendre ça. Maître Bellemare, vous n'en reviendrez pas à quel point il y a des gens qui sont irrespectueux envers nos policiers et policières au Québec.
Ouais, tu m'as répondu quoi?
Pour des vitres teintées.
Sale pute de merde, tu m'as entendu tout le long là-bas, sale pute. Et quand je suis sorti, t'es venu m'arrêter.
Non, je suis là puis j'attends.
Ferme ta gueule, sale pute, tu m'entendais là-bas tout le long. Dès que je suis sorti, tu m'as arrêté, petite pute, avec ta tête de chienne de merde. Sale chienne, ferme ta gueule, sale pute. Ferme ta gueule, tu vérifies ton fucking bail. Pourquoi tu me dis ça, mec? Tu m'as fait du profilage racial, tu m'as attendu tout le long au fucking parking.
J'ai même pas vu, c'est qui
ferme ta gueule, sale pute. Tu m'as vu sortir et tu m'as vu rentrer dans la voiture, sale chienne de merde.
Non,
sale pute, ferme ta fucking gueule. Tu veux mes affaires? J'ai eu un fucking bail il y a deux jours.
Est-ce que tu peux juste monter ta vitre un petit peu?
Ah, bah chienne, là, sale pute. Fucking bande de fils de pute de merde, là. Casse les couilles, sale chienne. C'est de ma faute, tu fais 20 de l'heure? Est-ce que c'est de ma faute, tu fais 20 de l'heure? Est-ce que c'est de ma faute si je suis plus riche que toi? Est-ce que si je me... c'est de ma faute, si je veux, je t'achète là et je te mets en esclavage? T'es mon esclave, genre si je veux, t'es mon esclave. Sale chienne de merde.
Ça dit 17?
Mais sale pute, j'ai eu un ticket pour ça il y a deux jours.
Est-ce que je peux avoir ton permis de conduire, ton numéro de
la mais j'ai eu, façon, j'ai eu un ticket pour ça il y a deux jours. Tu m'as redonné un autre ticket?
C'était pas moi qui te l'a donné il y a deux jours.
Sale pute, sale pute. Tu m'as attendu tout ce temps-là, je suis sorti, j'ai mangé ma poutine. Je suis revenu, j'étais en train de manger ma poutine. Tu m'as attendu sortir. Et là, tu m'as suivi, petite ch. Attends, juste après, avocat Villeneuve. C'est quoi ton matricule aussi?
Mon matricule?
Ouais.
8922.
Et ton nom?
Schmidt.
T'es laid, sale pute de merde. Je vais voir ce que je vais faire avec avocat Villeneuve, ça, ça, sale pute.
Maître Bellemare, je sais pas vous, là, mais moi, quand j'étais jeune, je me suis dit, hey, peut-être qu'un jour, je pourrais être policier, mais je peux vous dire qu'après quelques secondes, Maître Bellemare, après 5 secondes avec cet individu-là, j'aurais sorti le taser, j'aurais dit, taser, paf, puis je tire.
Ben, il y a de l'entrave, c'est de l'entrave.
Ben là, c'est, ça n'a pas de bon sens.
C'est une infraction. Je comprends pas comment ça se fait que ce gars-là n'est pas accusé d'entrave au service des policiers, parce que l'entrave, c'est pas juste une entrave physique, c'est aussi. Mentir, cacher des preuves ou refuser de collaborer ou
les menaces de s'en faire.
Je ne peux pas croire que la SPVM n'a pas trouvé une infraction criminelle pour réprimer ce genre de comportement-là pour cet individu-là, ce minus minable-là, là, qui filme en plus, mais c'est pas lui qui filme, c'est probablement quelqu'un qui est de son passager de véhicule, parce que lui, il a l'air d'être au volant.
Ce qu'on comprend, c'est que c'est lui qui a diffusé la vidéo. Donc, c'est pas la policière qui a diffusé cette vidéo-là. C'est pas la police de Montréal qui a diffusé cette vidéo-là. Mais Maître Bellemare, je veux dire, il mentionne à la policière, « Je vais t'acheter et je vais te revendre à des fins de prostitution. » Je veux dire, c'est des menaces, ça, là. Puis la policière garde son calme. Et de ce que je comprends, insulte un agent de la paix, à Montréal, c'est pas une contravention qui est souvent donnée, là. Puis il y en a qui sont au courant de ça, et cet homme-là, qui est probablement un putain de misogyne, on va se le dire, en profite pour insulter la policière qui ne fait que son travail, là.
Ah ben, dans n'importe quel corps de métier, mais surtout quand tu représentes l'autorité, c'est vraiment inacceptable. Mais je pense que là, le SPVM aurait une opportunité de faire quelque chose par rapport à cet individu-là. D'abord, que son nom soit connu, qu'il soit jugé pour les propos qu'il a tenus, que ce soit de supporter la policière dans le cadre d'un recours civil, d'une plainte à la Commission des droits de la liberté de la personne, d'une accusation de nature criminelle pour avoir entravé son travail parce qu'il ne collabore pas, donc il entrave, il ne répond pas aux questions, il l'insulte. Il me semble qu'on aurait là un cas patent là, où le SPVM pourrait mettre ses culottes, mettre le pied à terre, là, pour éviter que ça se reproduise, parce que la conséquence de ça, compte tenu que c'est médiatisé, ça peut être d'encourager d'autres sans-dessin, d'autres caca de faire la même chose.
Exactement.
Et sachant que ça se fait puis que la SPVM ne bouge pas par rapport à ce comportement odieux-là, ça peut encourager d'autres personnes à faire la même chose. Alors, si tu ne veux pas que ça arrive, il faut que ce gars-là paye pour ses erreurs parce que c'est tout à fait inacceptable. Il parle à une police, là.
Oui, mais j'ai eu l'impression que les gens ont perdu un certain respect à l'égard des policiers et des policières. À savoir si ça, c'est mérité. Je pense que c'est pas mérité pour à peu près 99,9% des policiers et des policières. Mais on a des difficultés. En 2026, là, on a des difficultés de recrutement de policiers et de policières au Québec. Peut-être qu'on on en voit les raisons au travers de cette vidéo-là. C'est que les policiers ne peuvent plus rien faire. Puis... là, Bellemare, je vais m'embarquer dans quelque chose. Là. Vous n'êtes pas inclus. Ce qu'on m'a dit à la Ville de Montréal, il y a certains policiers qui m'ont dit à la Ville de Montréal, quand c'est des gens d'une certaine nationalité, on préfère passer notre tour plutôt que d'intercepter l'individu parce qu'on va se faire filmer, parce qu'on va se faire insulter, parce que les vidéos de mon visage vont passer sur les réseaux sociaux, puis on dit « je gagne pas assez cher pour me faire varloper ces réseaux sociaux puis que mes enfants voient ça par la suite. »
Oui, mais là, c'est inacceptable. Là. À jouer ce comportement-là, à ne pas intervenir parce que c'est des gens de couleur, c'est bon. Ce sont de nouveaux arrivants, ce sont des gens de couleur, mais ils n'ont pas le droit d'être plus... répréhensible, d'avoir des comportements plus répréhensibles, plus misogynes, plus sexistes que ce qui a été dit tantôt. Alors, c'est peut-être une raison de plus pour... il n'a peut-être pas compris ce gars-là qui n'est pas... il est au Québec, là, il est en Amérique du Nord, au Québec, puis ici, il y a des règles, puis il y a l'égalité homme-femme, puis il y a des droits, puis la police a certains pouvoirs, puis c'est correct qu'elle en ait des pouvoirs parce qu'il y a des pays où la police n'a pas de pouvoir, c'est le chaos. Alors, il faut maintenir l'autorité des policiers, surtout que ce gars-là... à l'évidence, c'est en infraction au moment où la police l'intervient, l'intercepte. Il prétend pas que... Il dit que la police l'a checké, qu'elle a attendu qu'il parte ou je sais pas trop, là, mais la question, c'est pas ça. La question, c'est de savoir, Coco, t'es-tu en infraction, tu ne l'es pas? Et il n'y a rien qui nous dit qu'il n'est pas en infraction au moment où il s'adresse à la policière comme ça. Il est juste frustré, mais tu es obligé de te contenir. Tu n'as pas le droit de parler à une police comme ça. Moi, je trouve que c'est inacceptable et je trouve que le SPVM, qui est le plus gros corps de police du Québec, là, un test de crédibilité aussi.
Parfaitement d'accord.
Il se décrédibilise.
Il faut faire un exemple. Ce que je trouve particulier, c'est que la vidéo a été diffusée il y a de ça plusieurs mois et que là, il y a quelqu'un qui a remis ça sur les réseaux sociaux en fin de semaine. Et là, ça a fait un boom. Et là, le SPVM sort en disant « on va faire quelque chose ». Pauvre policière qui a attendu tout ce temps-là avant que son employeur la défende. Maître Bellemare, on va faire une courte pause. On va revenir avec énormément de sujets tout de suite après la pause en vous rappelant que chaque lundi, on a le plaisir d'être avec Maître Marc Bellemare, spécialiste de l'IVAC, de la SAAC et de la CNSST. C'est bellemareavocat.ca. On fait une courte pause et on vient.
Marceau, le soir. Marceau, le matin.
Elle est maintenant députée indépendante de Saint-Laurent. Son nom, c'est Marois Risky. Est-ce que vous avez été témoin de ça à l'Assemblée nationale, des gens qui sont là pour se servir en politique?
Tantôt, vous m'avez dit des affaires que vous n'allez pas pouvoir répondre. Ben, vous comprenez? Je réponds de la France que j'adore. J'ai confiance en nos institutions. Ouais. Et je suis convaincue que les gens qui ont des pouvoirs d'enquête sont capables de relever des manquements le cas échéant.
Ça, c'est la cassette.
Oui! Et je suis convaincue que si mon avocate écoute en son moment,
elle est contente, maintenant. Là.
Oui.
Quel sentiment vous habite par rapport aux gens du caucus libéral? Avez-vous, à un moment donné, été fâché après ces gens-là qui défendaient bec et ongles Pablo Rodriguez?
Non, parce que ils n'ont pas le niveau d'information que moi, j'ai.
Pourquoi ne pas leur avoir donné?
Je ne peux pas. Je n'aime pas dire à mon mari.
Peut-être le prendre moins personnel, elle ne l'a pas dit à son mari.
Ben, c'est sûr.
Marceau, le matin. En semaine, 6h.
Planifiez votre consultation sans frais en détatouage pour enfin dire bye-bye tatou chez Viva et obtenez une carte cadeau de 125 $. Pour en profiter, direction cliniqueviva.com.
Plus que quelques jours pour profiter des plus belles offres du rendez-vous Air France. C'est le moment de prendre rendez-vous avec Paris à partir de 895 $ ou Athènes à partir de 995 $ aller-retour taxe incluse au départ de l'aéroport international Jean Lesage de Québec. Vous pouvez savourer une coupe de champagne dans toutes les classes, y compris en cabine économie. S'envoler en toute élégance. Air France. Réservez d'ici le 31 mars et voyagez du 12 juin au 6 octobre 2026, voire conditions sur airfrance.ca.
Lasagne surgelée. puissance moyenne pendant 15 minutes. On dirait que c'est l'heure d'Ojo. Prêt à jouer?
Vivez le plaisir sur playojo.net avec toutes vos machines à sous et jeux de casino préférés comme Jungle Beasts et Sugar Rush, en plus d'exclusivités que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Hey, j'ai gagné! Woohoo!
Sentir le plaisir, Play-O-Jo.
Chérie, oublie les lasagnes! Faut fêter ça!
Disponible pour tous les joueurs de 18 ans et plus. Ceci n'est pas un set de jeux d'argent. Veuillez jouer de façon responsable.
T'as besoin de plus de temps dans ta journée, puis t'as ton permis classe 1 ou de classe 3? Ça donne bien! Service alimentaire Gordon recrute. Avec une gamme d'avantages sociaux plus que complète et des horaires qui te permettent d'avoir encore plus de temps pour toi et ta famille, pourquoi tu te poses encore la question? Deviens chauffeur-livreur classe 1 ou classe 3 chez Service alimentaire Gordon. Simplifie ta vie, postule au recrutement à gfs.com.
T'es autant intéressé par ce qui se passe à Québec que par ce qu'il y a de nouveau dans le monde du rock?
Boulevard 102.1.
Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Et lundi, c'est toujours avec Maître Marc Bellemare, ex-ministre de la Justice, spécialiste de la SAAC, d'IVAC et de la CNESST, bellemareavocat.ca. Mon premier sujet à cette deuxième portion d'émission, Maître Bellemare, on s'est pas reparlé hein, depuis que Maïté Blanchette-Vézina a décidé d'embarquer avec Éric Duhaime au Parti conservateur du Québec?
Non, on ne s'est pas parlé, effectivement. C'est une nouvelle qui est sortie mercredi dernier. Puis j'étais mercredi dernier à Rimouski pour aller plaider deux causes au tribunal administratif du travail. Donc j'étais sur place. Puis les quelques personnes à qui j'en ai parlé n'étaient pas très contents.
Qu'est-ce que vous pensez des transfuges? Puis dans son cas, elle, là, c'est un cas qui est assez particulier. On parle d'une mairesse qui était membre à la fois de Québec solidaire, à la fois de la Coalition Avenir Québec et du Parti québécois. Et là, tout d'un coup, elle se ramasse à la CAQ comme députée, par la suite nommée ministre, se fait dégommer, perd son poste de ministre, est mécontente, décide de quitter. Finalement, elle regarde les intentions de vote actuellement dans son comté et ça ne va pas à son avantage. Donc, elle approche Éric Duhaime, qui la place dans un endroit à Québec où elle aurait des chances de passer relativement assez facilement. Est-ce que c'est une opportuniste, selon vous?
Bien, écoute, moi, je ne suis pas sûr que l'idée d'annoncer déjà une candidature dans la pelleterie est une bonne idée. Je pense qu'elle aurait dû faire ça en deux temps. Elle aurait pu annoncer sa sympathie pour le Parti conservateur, pourquoi elle rejoint le Parti conservateur, en quoi le Parti conservateur répond davantage à ses idées, parce qu'elle dit que le Parti conservateur est plus ouvert au niveau des régions. Alors, c'est son argument premier. Alors, si elle était restée à Rimouski, qu'elle n'avait pas annoncé une candidature dans la région de Québec, parce qu'on est quand même en mars 2026, alors qu'est-ce qui pressait tant d'annoncer une candidature pour le mois d'octobre? Hein? Parce qu'il reste que c'est quand même dans 6 mois et demi, la prochaine élection, le prochain scrutin général. Donc, j'étais un peu surpris qu'on y aille d'un coup à dire « Je suis conservatrice et je vais me présenter dans la pelleterie. » Parce qu'en se présentant dans la pelleterie, bien là, c'est un comté urbain.
Ouais.
Un petit peu rural, mais essentiellement urbain quand même. C'est assez urbain. Là, pour tout le monde qui connaît la région de Québec, on est vraiment avec l'ancienne Lorette, etc. Alors, moi, je pense que ça aurait pu se faire en deux temps parce que là, elle aurait eu moins de critiques du fait que en même temps qu'elle dit que le Parti conservateur est le parti des régions, puis sa priorité, c'est les régions. Puis c'est des régions dont elle parlait, puis qu'elle vantait quand elle s'est présentée au congrès du Parti conservateur. Elle a fait un discours en disant « Vous êtes le parti des régions, vous êtes le parti des régions, etc. » Donc ça, c'est le premier mot qui était, à mon avis, discutable. Le deuxième, c'est la candidature pour le Parti conservateur. Parce que là, l'étiquette du Parti conservateur, elle n'est pas indépendante.
Non.
Et dans son comté, dans Rimouski, là, j'ai les chiffres, là, le Parti conservateur est arrivé en 2022 quatrième. Elle a eu 13 000 votes. Le PQ en a eu 9 000, deuxième. Québec solidaire en a eu 7 000. Le Parti conservateur en a eu 1 500. Fait que quand tu dis que le parti de Québec solidaire, qui n'est pas un parti très, très régional, on s'entend, là, Québec solidaire, c'est Québec-Montréal, là. Puis Sherbrooke, puis un peu l'Abitibi, ça dépend des élections. Mais quand tu dis que Québec solidaire va chercher quatre fois et demi plus de votes que le Parti conservateur dans Rimouski, ça veut dire qu'il y a une présence du Parti conservateur du Québec, mais qui n'est pas très élevée, qui n'est pas très importante. Je ne te dis pas que ces chiffres-là sont encore bons aujourd'hui en 2026. Je te dis qu'en 2022, c'était ça. Quand elle a été élue, Maïté Vézina, c'était le score qu'elle avait obtenu. Alors, là, les gens se retrouvent dans le comté de Rimouski avec un député conservateur. Alors qu'il y a juste 1500 personnes qui ont voté pour le Parti conservateur du Québec. Moi, je ne sais pas. Si j'étais un résident de Rimouski, honnêtement, je ne serais pas content. Pas parce que je ne suis pas conservateur, ça n'a rien à voir. C'est pas ça la question. La question, la première question, c'est pas de savoir si tu es content qu'elle ait adhéré au Parti conservateur. Parce que tu peux dire, moi, je suis conservateur jusqu'au bout des doigts.
Ouais.
Sauf que c'est l'idée d'imposer, en quelque sorte, à des gens qui n'ont pas voté pour le Parti conservateur du Québec et loin de là, une présence, une députée conservatrice. Parce que là, elle est la députée de tous les Rimouskois.
Exact.
Avec pour une... un parti qui est arrivé quatrième et loin quatrième dans les scores de 2022. Ouais. Puis il n'y a pas eu d'élection partielle.
C'est rien contre le Parti conservateur du Québec. Mais comme vous le dites, elle a été élue sous une autre bannière. Elle devient indépendante, c'est correct. Mais là, qu'est-ce qui me garantit qu'elle va faire son 40 heures par semaine dans la circonscription de Rimouski pour les citoyens de Rimouski?
Oui, puis tu sais, quand tu votes pour la CAQ, parce que tu sais en 2022 que la CAQ va être élue parce que les sondages étaient très favorables à M. Legault, je pense qu'il a ramassé 90 députés, 89 en 2022, ça a été un score incroyable. Alors, les gens ont voté pour une députée du bon bord, sachant fort bien que quand tu as un député du parti au pouvoir, tu risques d'avoir de meilleures retombées dans ton comté. Si elle est ministrable, ce qui est arrivé parce qu'elle était ministre de la Forêt, c'est encore plus intéressant parce qu'elle siège dans le Saint-Graal du Conseil des ministres. Donc, elle a énormément d'influence parce qu'elle a accès à peu près à tout le monde. Donc, pour les services de santé, les retombées économiques, les services gouvernementaux dans son comté, c'est beaucoup plus facile à défendre quand tu es au Conseil des ministres. Alors là, on se retrouve avec un parti qui est le Parti conservateur qui n'a aucun élu à l'Assemblée nationale. Fait que son influence va être beaucoup moindre dans son comté de Rimouski. Puis effectivement, en annonçant qu'elle va être candidate dans la pelleterie, forcément qu'elle va faire une certaine campagne.
Bien, il va
faire... Quand tu t'annonces, c'est pour ça que je te dis qu'elle aurait dû attendre. En mars, tu annonces que tu vas être avec M. Duhaime et que tu vas promouvoir les idées du Parti conservateur, ce qui n'est pas un péché. Mais tu n'annonces pas ta candidature dans un comté urbain à Québec qui est à 3 heures et demie de route de ton comté d'origine parce que là, tu es obligé de faire campagne. Ce move-là, je ne le comprends pas. Ceci étant dit, c'est un excellent coup pour M. Duhaime parce que, indépendamment de ce qui arrivera à Maïté Blanchette, Vézina, moi, je pense que pour M. Duhaime, c'est extraordinaire parce que c'est d'ailleurs, la semaine passée, les médias y ont appartenu. Parce que tout le monde en a parlé, on en parle encore aujourd'hui. Alors, pour lui, c'est une porte ouverte, c'est une porte-parole d'envergure au Québec. Médiatiquement parlant, il y a un intérêt pour Mme Vézina, il y a un intérêt pour M. Duhaime. Donc, lui, il va chercher une couverture et une visibilité accrue. Mm-hmm. Alors, pour lui, c'est une excellente ouais. nouvelle.
Et il n'y aura pas à se battre pour avoir une participation dans tous les débats des chefs.
Oui, bien, il était là, je pense, en 2022, Duhaime.
Oui. Mais là, alors,
il va être la prochaine fois aussi.
Mais s'il veut être dans tous les débats des chefs possibles, ben là, ils vont être obligés de l'inviter pareil. T'sais. Comme je suis entièrement d'accord avec vous que c'est un coup de maître d'Éric Duhaime. J'ai entendu dire, puis ça, c'est des rumeurs là, qui sont à l'intérieur de l'Assemblée nationale. J'ai quelques collègues journalistes aussi qui m'ont confié ça d'ailleurs ce matin à l'émission. Bernard Drainville pourrait peut-être faire le saut aussi chez les conservateurs. Y croyez-vous?
Ben, je pense que ça pourrait être possible.
Mais ça n'aurait pas de bon sens, mais de belles
noms. Non, mais il a été pour le troisième lien, ce qui est une promesse forte du Parti conservateur, pas nécessairement sur la même ligne. Il a mis un genou à terre pour la droite, couper les impôts, baisser ci, baisser ça, un virage à droite là, dans plein de domaines, les GES, etc. Alors, tu sais, Écoute, M. Duhaime va avoir besoin de 125 candidats. Là. Alors, il y a besoin de candidats d'envergure, il y a besoin de gens connus. Et puis, c'est une bonne question que tu poses là. Peut-être que Drainville avait à l'esprit que sur la rive sud de Québec, la Beauce, la région de Québec en général, le Parti conservateur et les récents sondages le mettant en première position dans la région de Québec, ça touche la Beauce, ça touche la rive sud. Pourquoi pas? Si ça lui tente d'être candidat, c'est peut-être la meilleure place pour lui où aller. Il n'ira pas avec les libéraux. S'il se représente, il n'ira pas avec la CAQ, probablement pas. Comme tu le disais tantôt, la chicane est poignée comme il faut, puis il y a bien des gens qui ne pardonneront pas d'avoir été supposément agressif. Moi, je trouve qu'il ne l'a pas été tant que ça. Là. Puis, il n'y avait pas bien le choix que d'essayer de donner un coup de pied dans la ruche s'il voulait passer, s'il voulait être respecté dans ce débat-là, puis essayer d'augmenter ses appuis. Mais il n'ira pas au Parti québécois parce que le Parti québécois n'en veut pas de toute façon. Puis, c'est drôle, il a été candidat à chefferie du PQ, ce gars-là. T'sais. Il a été candidat à chefferie de la CAQ. Mm-hmm. Pourquoi pas? Parce que s'il voit qu'il n'y a pas d'issue possible, s'il voit qu'il n'y a pas de retour possible dans une émission de radio aussi célèbre que celle qu'il y avait au 98.5 avant d'être candidat avec M. Legault en 2022, s'il voit qu'il n'y a pas d'issue puis qu'il tente d'être candidat, pourquoi qu'il n'irait pas avec le Parti conservateur? Il y aurait peut-être des chances. Parce que le score, je n'ai pas le score dans les vies du Parti conservateur, mais...
Actuellement, ce serait actuellement, ce serait PQ, dans l'ordre, ce serait PQ, ensuite Parti conservateur du Québec, et très loin, ce serait M. Drainville. Là. Si je vais par position, ce serait ça, un, deux.
Oui, mais si Drainville puis le Parti conservateur, c'est la même personne, non? Ça peut peut-être changer, là. Le Parti conservateur est plus populaire actuellement que Bernard Drainville comme candidat de la comme député caquiste.
Merci de me donner encore une autre raison de douter de tous les politiciens, Maître Bellemare. Comment on peut changer autant...
C'est rendu compliqué hein, de s'y retrouver. Quand tu vois des affaires comme ça... Là,
comment on peut changer autant de maisons puis pas être gêné? Faire une carrière au complet à gauche à Radio-Canada pour par la suite aller au PQ, être à gauche, par la suite retourner à la radio, être choisi à la radio parce qu'il y a avait des idées de gauche. Après ça, il s'en va pour la coalition Avenir Québec. Ça ne fonctionne plus comme il voulait. Il est fâché. Là, tout d'un coup, il devient à droite parce que Christine Fréchette représente la continuité. Fait que là, lui, il faut qu'il se trouve d'autres histoires. Il devient à droite. Et là, finalement, il aurait réapparu par la suite au Parti conservateur du Québec. Ça ferait une drôle de biographie, mais en même temps, Bernard Drainville, c'est un drôle d'individu. Remarquez que tout le monde a le droit de changer, là, mais moi, je déteste ceux qui changent de cap constamment.
Les vire capot, mais tu sais, c'est sûr que si Drainville, je sais pas, moi, j'ai pas l'impression que s'il perd, puis c'est probablement ce qui va arriver.
Ben oui, c'est ce qui va arriver.
Je suis plus de la CAQ, j'ai pas l'impression qu'il va rester en politique. Parce que là, ça fait tellement de virages là, qu'à un moment donné, on en perd notre latin. On est dans la grosse girouette, même si ce terme-là n'est pas un terme parlementaire, semble-t-il.
Moi, je vous garantis qu'il va être recruté à la radio.
Radiophonique, au moins.
Je vous garantis qu'il va être recruté à la radio, puis je ne vous dirai jamais quoi faire à mes patrons, là, mais ce serait au 99.5 à Montréal, là, avec Mario Dumont. Là. Ça ferait un hit incroyable, un petit 20 minutes avec Bernard Drainville. On se souvenait en fin de semaine des 10 ans du départ de Jean Lapierre. À quel point c'était un rendez-vous le matin quand Jean Lapierre était là au 98.5. Bien, au 99.5, on peut recréer ce genre de rendez-vous-là avec un autre personnage là, qui est Bernard Drainville puis Mario Dumont. Moi, j'adorerais.
C'est vrai, parce qu'on peut douter de ses allégeances au plan politique et on peut les déplorer, ces nombreux virages-là, mais en même temps, c'est un individu chaleureux. C'est un individu, tu sais, je veux dire, les gens peuvent dire « Ah, comment ça se fait qu'il change d'idée puis tout ça », mais il reste que c'est quand même un peu intelligent. C'est un gars qui a une grande culture. Il a été journaliste longtemps à Radio-Canada. Il a fait une belle carrière politique. Il a été ministre sous le gouvernement Marois. Il a été aussi ministre d'envergure à l'éducation avec la CAQ. Alors, ça n'a pas toujours été parfait. Mais en même temps, comme tu dis, à la radio ou à la télévision, ce serait certainement un individu qui serait écouté parce que les gens écoutent la radio et la télévision, pas nécessairement parce qu'ils aiment la personne. Hein, j'avais une vieille tante, moi, qui me disait, moi, j'écoute André Arthur pour l'haïr. J'ai dit, comment ça, pour l'haïr? Elle dit, j'écoute André Arthur pour l'haïr. Elle écoutait la radio pour l'haïr. Elle dit, je parle tout seul dans la maison puis je crie contre lui. Ouais.
C'était la même affaire pour Gilles Proulx à Montréal.
C'est quoi ta tante? Ça veut dire que tu participes à son végétariat parce que quand, quand ils font des sondages, ils voient qu'il y a une personne qui l'écoute assidûment. Elle écoutait toutes ses émissions. Alors, c'est ça la beauté de l'affaire, c'est que c'est pas, tu sais, dans le fond, tu fais un show, et puis les gens qui vont t'écouter sont des gens qui vont écouter ton propos parce que ton propos est pertinent, pas nécessairement parce qu'ils partagent ton point de vue, t'sais.
Maître Bellemare, il reste quelques minutes, on parle un petit peu de baseball, puisque vous m'en aviez parlé il y a de ça quelques semaines. La technologie, elle devrait être de plus en plus présente au baseball et des fois corriger des erreurs qui se font en situation de match, là.
Oui, parce que l'année passée, dans les séries mondiales, Blue Jays, Seattle, Blue Jays, Los Angeles, finalement, c'est Los Angeles qui a gagné la série mondiale, on écoute beaucoup de baseball. Et moi, j'étais sidéré de voir combien il y avait d'erreurs de jugement, des prises, des balles, parce qu'aujourd'hui, les lancers sont complexifiés. Hein, tu as des balles lentes, tu as des balles courtes, tu as des rapides, tu as des glissantes, toutes sortes de choses. Alors, c'est devenu compliqué. Et la Ligue majeure de baseball ont décidé d'introduire dans les matchs pré-saison un concept électronique, où ils permettent l'introduction de mécanismes électroniques qui permettent au receveur de parler au lanceur sans avoir à faire les codes avec les doigts qui permettent à l'autre équipe de bomber, de deviner les codes, donc d'anticiper les lancers. Alors, l'électronique est rentrée dans les ligues, dans la Ligue majeure de baseball, les deux ligues, ce qui est très bon. Je ne sais pas ce que ça va donner à long terme, mais je sais que dans les matchs pré-saison, ils ont prévu ça. Puis tu as le droit de challenger l'arbitre, je pense, deux fois par match.
Okay.
C'était le concept de pré-saison. Et ça m'amenait à penser à la Ligue nationale de hockey avec les hors-jeux. On a déjà parlé il y a quelque temps. Puis je te disais comment ça se fait que les juges de ligne sont sur la glace plutôt que d'être dans les estrades à checker la ligne bleue. Mais tu sais, avec une puce à l'intérieur de la rondelle, il serait assez facile de voir si la rondelle est rentrée avant le joueur, etc. Mmh. Tu peux même avoir des puces avec les joueurs, au niveau des patins. Ou en tout cas, écoute, on est dans le numérique à plein. Oui.
Puis quand vous m'avez parlé de ça...
téléphones, tout ça, puis là, on a des équipes de la Ligue nationale,
ouais,
avec des hors-jeux, puis des buts, ouais, qui sont accordés qui ne devraient pas l'être. Puis on a l'impression d'être là où on en était il y a 25 ans.
Vous trouvez qu'il y a trop de monde sur la glace, puis vous êtes dit, mais qu'est-ce qu'ils font les juges de ligne, là, Maître Bellemare? Puis quand, après l'émission, dans ma voiture, des fois, je réfléchis au sujet qu'on a abordé. Puis là, je me suis dit, s'il n'y avait pas de juges de ligne, quand les 10 gars sur la glace, putain, les deux autres gardiens, donc les 12 gars sur la glace, décident de jeter les gants,
oui, mais ben là, t'envoies les... Non, non, mais t'as un système de sécurité. T'as un système de sécurité. Non, non, mais c'est vrai, t'as des gars qui sont sur les lignes.
Oui.
Puis si la chicane pogne, ben là, ils sautent sur la glace, puis ils vont départager.
Ah, ben oui.
C'est pas obligé d'être tout le temps là pour vérifier si la rondelle est rentrée avant le joueur.
Oui.
Avec toutes les erreurs. Il y a combien de buts qui sont annulés comme ça, Yannick, dans une saison? C'est ahurissant. Des fois, t'as deux buts par match qui sont annulés parce que les juges de ligne n'ont pas vu la rondelle.
Ouais. Moi, je suis d'accord avec...
Un qui fait qu'ils peuvent sauter sa glace pour séparer les joueurs, mais qu'ils soient là tout le temps, moi, je trouve que c'est une entrave, puis ça ralentit le jeu.
Ben oui, c'était l'opinion de Maître Marc Bellemare. C'est toujours un plaisir d'être avec vous chaque lundi, Maître Bellemare. Je vous souhaite de passer une belle semaine.
Parfait, merci. Bonne semaine tout le monde.
Merci d'avoir été là. On se reparle demain, les amis. Salut tout le monde.
Marceau, le soir.
À la recherche d'un nouveau nid? Pensez au condo locatif Le Charlie, près de la rivière Saint-Charles. Comprend l'eau chaude et Internet, ainsi que l'accès au gym, au lounge et à la terrasse. Visitez lecharlie.ca.
Moreau PRS cherche à combler plusieurs postes pour ses succursales de Québec et Lévis. On recrute des représentants en vente, des installateurs et du personnel d'entrepôt. Envie de joindre une équipe solide et le vent dans les voiles? Postulez dès maintenant chez Moreau PRS. Visitez moreaupRS.com.
De ce temps-ci, on y va tous de nos prédictions. Sur la météo, qui fera les irées? Puis, est-ce que Fred la Marmotte avait raison sur l'arrivée du printemps? Pendant l'événement La Totale chez les concessionnaires Chrysler, Dodge, Jeep et Ram, on vous fait une prédiction qui, elle, tient vraiment la route. Avec la garantie du meilleur prix, on vous prédit le meilleur prix sur les pneus d'été admissibles installés en concession. Si vous trouvez moins cher ailleurs, on égale le prix. En plus, à l'achat de 4 pneus neufs installés, on vous offre l'entreposage gratuit de vos pneus d'hiver. Mopar, nos véhicules, nos experts. Des conditions s'appliquent. Détails sur mopar.ca.
Boulevard, c'est des idées, des voix, des rendez-vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Boulevard 102.1. pour regarder le Pit Stop, l'Open Mic et le Caucus. Découvrez nos podcasts originaux, sans oublier nos grandes entrevues et nos moments forts. Du contenu qui informe, qui questionne, qui fait réagir.
Si on veut ramener des familles dans le Vieux-Québec, c'est quoi la stratégie si on n'a pas les éléments de base?
Tout ça sur la belle petite chaîne YouTube de Boulevard 102.1.
Le patron Lapin est de retour. Achetez un chocolat de Pâques et courez la chance de gagner un de nos trois prix d'une valeur totale de 5000 $. Chaque lapin vendu soutient les activités du patron. Croquez pour le patron et gagnez gros. Détails sur patrolapin.com.
Boulevard. Boulevard 102.1. Ce bon à tous les jours pour vous donner l'heure juste. Traitez l'actualité qui nous entoure avec les spécialistes qui savent de quoi ils parlent.
Oh my God, I can't believe it.
Boulevard décortique. Boulevard rassemble. Rassemble.
Come together.
La radio de l'extrême-centre au Québec.
Maintenant, 100 % talk.
Une propriété Leclerc Communication.
Je prends quelques minutes pour vous rappeler que le balado Histoire d'entrepreneur est présenté par Marc-Antoine Reed, planificateur financier. Marc-Antoine Reed aussi, qui est un homme engagé dans sa communauté à travers plusieurs causes, travaille régulièrement de près avec des entrepreneurs, des professionnels aussi qui veulent s'incorporer. Question d'atteindre leurs objectifs financiers. Vous visez l'indépendance financière. Eh bien, Marc-Antoine Reed, planificateur financier, va vous aider à les atteindre, ces différents objectifs-là. Travaille avec vos autres experts, que ce soit des comptables, des fiscalistes, vraiment pour s'assurer d'atteindre ce que vous souhaitez. Il est planificateur financier. Faites-lui confiance. Il s'appelle Marc-Antoine Reed.
Le gros trip de ma vie, c'est, ça a toujours été de combattre contre le statu quo.
Histoire d'entrepreneur.
J'aime ça développer un concept novateur, investir là-dedans, puis voir les gens qui trouvent leur compte dans le concept.
Avec Joanie Fortin.
Je dis pas qu'il y a pas eu des moments tough, on va en parler.
Une présentation d'équipe Marc-Antoine Reed, IG, gestion privée de patrimoine, planification financière et fiscale pour entrepreneurs. Votre conseiller vous met-il au cœur de votre plan? Rencontrez-en un qu'il fera. Équipe marc-antoine-reed.com.
Est-ce que t'as le syndrome de l'imposteur?
Vraiment?
Parce que, non, mais c'est parce que tu viens de dire « Je suis qui, moi, pour être à côté de Pierre-Yves McSween pour parler du marché immobilier? » Mais POV, Pierre-Olivier Vire, t'es quand même un des courtiers immobiliers affichés Remax les plus connus et reconnus à Québec. Je suis surprise que tu me dises que t'es le syndrome de l'imposteur.
Oui, vraiment beaucoup.
Pourquoi?
Je sais pas. On dirait... tu sais, c'est tout le temps la perception de soi-même et non la perception des autres. T'sais, effectivement, par n'importe qui, oui, tu sais, on a des résultats exceptionnels, on vend beaucoup de maisons puis ça va super bien. Mais en même temps, moi, je me projette en regardant des courtiers, des gens qui performent plus que moi, qui sont plus à des plus hauts niveaux que moi pour toujours être capable de s'améliorer. Fait qu'on dirait que j'ai le c'est jamais assez pour moi. Fait que dans ma tête, j'ai le syndrome de l'imposteur pour ça, parce que je me dis que je suis qui, moi, par rapport à toutes ces autres personnes-là qui réussissent mieux que moi.
OK. Puis en quoi Pierre-Yves McSween, parce que là, on parlait de la situation où tu étais à Radio-Can avec Pierre-Yves McSween, en quoi Pierre-Yves McSween réussit mieux que toi? Parce que là, tu te sens imposteur.
Oui, ben c'est ma perception. Tu sais, okay. je le trouve super brillant, tu sais, comme être humain. Je trouve qu'il parle bien, il a des bons propos. J'aime son point de vue. Fait que je trouvais ça intimidant d'être à côté de lui. Mais en même temps, ben, tu sais, je suis déjà là, tout le monde en parle, puis c'était la même chose. Tu sais, j'étais avec le Georges Bardagie, qui est le courtier numéro un Remax depuis toujours. Puis on était un à côté de l'autre, puis j'étais super intimidé déjà d'être à tout le monde en parle, puis là, déjà d'être à côté de mon modèle de courtier immobilier. Fait que j'avais le syndrome d'imposteur d'être là, mais en même temps, tu sais, depuis que c'est arrivé, tout le monde me parle de ça comme « Hey, t'es le gars, le courtier qui est allé à tout le monde en parle », puis fait que dans la perception de d'autres courtiers, probablement que je suis pas imposteur, mais dans ma perception à moi, un peu, oui.
Raconte-nous donc, rappelle-nous donc justement la raison pour laquelle tu es allé à Tout le monde en parle.
Oui, c'est en fait, tu sais, c'est quand même une drôle de situation. Là, je faisais une émission de télé qui s'appelle Les numéros 1. Fait que j'ai été dans les numéros 1.
Les imposteurs numéro 1, c'est ça?
Oui. Puis, mais cette émission-là, il y avait beaucoup de controverses dans cette émission-là parce que, tu sais, dans une émission de télé, le but, tu sais, c'est d'avoir de créer des histoires puis de montrer des choses qui attirent un petit peu les gens. Fait que, il montrait le côté des courtiers immobiliers qui est les grosses voitures, la vie des gens riches et célèbres et tout. Puis, on m'avait approché pour faire partie de cette émission-là parce que je vends beaucoup, beaucoup de grosses maisons à Québec. Mais en même temps, ils ne savaient pas que j'étais quelqu'un de super humain, introverti, qui déplaçait pas trop d'air dans mon mode de vie personnel à moi. Fait que puis j'ai resté cette personne-là dans l'émission. Tu sais, dans les transactions qu'on montrait, ben tu sais, je parlais de l'histoire des gens, je racontais tu sais le processus de vente, je les accompagnais, mes clients ils pleuraient tous à l'émission de télé quasiment au lieu de montrer tu sais la voiture avec laquelle que je roule puis des restaurants puis la vie de jet set.